J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois.
Les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
à mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner.
Bonjour. Bon, dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt, nous vous parlons aujourd'hui avec Nathalie de gestion durable des forêts et notamment des outils d'aide qui sont à la disposition des différents propriétaires, privés ou publics, pour mettre en place cette gestion durable. Alors, d'abord, pour rappeler un petit peu, la forêt sur notre territoire, que ce soit côté Lozère ou côté Gard, c'est à peu près 80% de forêts privées et 20% de forêts publiques. Les propriétaires publics, pour rappel, ça peut être l'État, les communes, les intercommunalités, et elles sont gérées par l'Office national des forêts. Et les forêts privées sont gérées directement par les propriétaires. Alors, la gestion durable, Nathalie, qu'est-ce que c'est ?
Oui, bonjour Virginie. Donc la gestion durable, c'est la gestion qui allie les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Et le code forestier français intègre cette gestion durable. Donc je ne vais pas vous lire les articles du code forestier, mais il l'intègre notamment à travers deux points. Donc sont reconnus d'intérêt général, la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable. Et deuxième point, la protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre également d'une gestion durable. Donc pour aider les propriétaires à mettre en œuvre cette gestion durable des forêts, le code forestier définit des documents de gestion durable. Et ces documents aident à fixer les objectifs à atteindre pour concilier tous ces enjeux, donc économiques, environnementaux et sociétaux. Et ces documents listent également les différentes interventions, notamment les coupes et les travaux sylvicoles. Et donc, ces documents de gestion sont des aides et des outils pour les propriétaires. Donc, pour nous parler de ces documents, on a interrogé deux personnes, Éric Rousset, qui est responsable de l'unité territoriale de Florac pour l'Office national des forêts, donc pour la forêt publique, je le rappelle, et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Éric.
Bonjour Nathalie.
Et Élise Buchet, responsable de l'antenne Gare du Centre national de la propriété forestière, donc pour la forêt privée. Et on l'entendra par enregistrement. Donc on va commencer avec Éric.
Bonjour Éric Rousset. Alors vous êtes ingénieur forestier à l'ONF sur le secteur de Florac. Donc l'ONF, c'est l'établissement public qui a été créé pour gérer les forêts appartenant à l'État, aux collectivités, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors avant de parler de la gestion durable des forêts publiques, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, aux auditrices, qu'est-ce que c'est le régime forestier ?
Alors le régime forestier, c'est un statut juridique qui remonte à très loin, au XVIIe siècle, hein, les bases, hein, pour garantir une gestion durable. Alors à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, mais pour garantir une gestion durable des forêts publiques. Et ce régime forestier, la loi en a confié la mise en œuvre à un opérateur unique, qui est l'Office national des forêts, l'ONF.
Pour vous, la gestion durable des forêts, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le bois est un matériau renouvelable, hein, et donc une gestion durable des forêts, c'est une gestion qui va perdurer vitam aeternam. Hein. C'est la forêt, c'est un endroit où on peut récolter du bois, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Hein. Parce que la forêt a plein d'autres rôles, et donc voilà, il faut le faire de façon parcimonieuse et réfléchie pour que ça puisse durer dans le temps.
D'accord, donc on fait des choix. Alors, pour les forêts publiques qui sont donc sous régime forestier, elles ont l'obligation d'être dotées de ce qu'on appelle un aménagement forestier. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est, comment ça se passe pour les forêts de l'État, pour celles des collectivités ?
Je vais revenir quand même un peu sur le régime forestier. Hein. Donc l'ensemble des forêts publiques est sous ce statut de régime forestier. Hein. C'est un caractère un peu obligatoire d'un côté. Hein. Mais d'un autre, il y a des engagements de l'opérateur, en l'occurrence l'ONF, de rendre un certain nombre de services aux différents propriétaires, donc que sont l'État ou les collectivités. Donc en premier lieu, effectivement, pour garantir cette gestion durable, l'ONF se doit d'établir un document de gestion qu'on appelle un aménagement forestier pour chacune des forêts. Il doit assurer l'intégrité des forêts qu'il gère, c'est-à-dire qu'il il est garant du périmètre de ces forêts-là. Dans les prérogatives de l'ONF viennent aussi l'obligation de fournir à chaque propriétaire annuellement un programme de travaux et un programme de coupe.
Quels peuvent être les thèmes justement qu'on retrouve dans l'aménagement forestier? Vous venez parler des travaux, des coupes. Est-ce que les propriétaires abordent d'autres thèmes?
Alors oui, l'aménagement, quand on rédige l'aménagement d'une forêt, on prend en compte des tas de choses. En premier lieu, donc, on fait l'état du foncier, c'est-à-dire l'état des limites. Hein. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que les bornes sont toujours en place? Voilà. Et après, on analyse les différents enjeux de la forêt qu'on va aménager. Hein. Et vous imaginez bien que suivant où elle se trouve, suivant son exposition, suivant les sols, suivant son altitude, la productivité de la forêt n'est pas la même. Les enjeux environnementaux ne sont pas forcément les mêmes. Les enjeux sociétaux ne sont pas les mêmes. Une forêt périurbaine a un rôle d'accueil du public plus important qu'une forêt au fin fond d'une vallée des Alpes ou des Cévennes. Hein. Voilà, donc c'est la prise en compte de l'analyse des enjeux de la forêt en particulier qui vont orienter les différentes études qu'on va mener sur le terrain. Hein. Et voilà, donc... bien sûr, l'analyse et la description des peuplements forestiers a une place prépondérante.
D'accord. Mais justement, quelles sont les étapes pour créer un aménagement forestier? Vous venez de parler d'études, de diagnostics, et après, comment ça se passe?
Donc, on a une phase de terrain un peu longue sur laquelle on va parcourir l'ensemble de la forêt. Hein, et on va... comment dire? Estimer, enfin analyser la répartition des essences, la répartition des classes d'âge, le niveau de renouvellement de la forêt, hein, l'état sanitaire des peuplements. Hein, voilà. Et de tout ça, nous allons fixer des objectifs à la forêt et donc un programme d'action avec un programme de coupe annuel. Et puis les grandes lignes des travaux qu'il faudra réaliser durant la période de l'aménagement, qui est fait pour une période qui va de 15 à 20 ans.
D'accord. Et cet aménagement forestier, est-ce que c'est rendu public?
Alors oui, l'aménagement forestier est un document public, au moins toute sa partie technique et sa fiche de synthèse. Hein, la partie bilan économique et financier n'est pas publique, hein, elle est réservée aux propriétaires, mais toute la partie technique est effectivement publique et consultable.
D'accord. Par exemple, sur Internet, on peut retrouver...
Oui, sur le site de l'ONF, vous retrouvez les aménagements de chacune des forêts qu'on gère.
D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres partenaires associés pour réaliser cet aménagement forestier?
Alors oui, ici en plus on est concerné par le parc national des Cévennes. Donc effectivement c'est un partenaire incontournable qu'on associe à tous nos aménagements, hein, et dans lequel on travaille en collaboration, et ils nous apportent toutes leurs connaissances en matière environnementale et ils nous font un retour pour chacune des forêts avec les prescriptions qu'ils souhaiteraient voir prises en compte en matière environnementale.
D'accord.
Mais on peut aussi imaginer des associations d'usagers, des associations de protection de la nature qui peuvent être associées en tant que de besoin.
D'accord. Est-ce qu'il y a un coût pour les collectivités pour réaliser cet aménagement forestier ?
Alors non, la réalisation des aménagements forestiers est un service gratuit pour les collectivités, puisque ça fait partie intégrante du régime forestier. C'est la contrepartie de l'obligation de donner en gestion à un opérateur unique. Il y a un certain nombre de services qui sont rendus aux propriétaires, dont l'aménagement forestier.
Merci. Et donc cet aménagement forestier, d'accord, c'est une obligation, mais au-delà, qu'est-ce que ça représente comme avantage pour les élus de se doter d'un aménagement forestier et d'y consacrer du temps ?
Dans les avantages, je pense qu'il y a une garantie d'une gestion durable au-delà du renouvellement des conseils municipaux, au-delà du renouvellement des personnels ONF. Hein. À travers ces documents d'aménagement, ces plans de gestion, il y a une garantie de gestion dans le temps, hein, et de suivi. Hein. Donc ça, je pense, c'est le principal avantage. À côté de ça, l'aménagement de la forêt communale, par exemple, n'est pas faite hors sol sans l'avis de la commune. Le propriétaire est bien sûr aussi associé, hein, et peut donner des avis ou des orientations qu'il souhaiterait qu'on donne à sa forêt communale. Hein.
Et alors, pour situer un peu sur nos territoires, combien y a-t-il de forêts appartenant à l'État et aux collectivités, notamment sur le territoire de la charte forestière Sud-Lozère, qui est animée par Nathalie, et aussi sur le territoire de la charte forestière du pays Cévennes.
Animée par Virginie.
Alors sur le Sud-Lozère, il y a 8 forêts domaniales, 4 forêts communales, 40 forêts sectionales et 7 autres forêts publiques. Donc, ce qui fait en tout 66 forêts publiques qui relèvent du régime forestier et ça couvre un peu plus de 20 000 hectares. Pour le pays des Cévennes, ce sont 5 forêts domaniales au nord d'Alès, dont 4 ont été créées dans le cadre de la politique RTM au 19e siècle et une créée pour la restructuration d'anciens terrains miniers. Et puis, il y a aussi une forêt départementale à Méjeanne-le-Clap pour environ 3 000 hectares et plus 32 forêts communales.
Merci Eric Rousset d'avoir répondu aux questions pour Radio Bartas. Et maintenant, pour achever cette interview, est-ce que vous auriez un mot forestier à ajouter ?
Oui, je pense que la forêt vit aujourd'hui des moments difficiles. Hein. L'année 2019 a particulièrement été cruelle pour la forêt. Hein. Les périodes de canicule, les périodes répétées de sécheresse font souffrir les arbres, hein, et du coup sont beaucoup plus sensibles aux parasites. Hein. Et on a assisté cette année à des très forts dépérissements dans toute l'Europe centrale, touché le nord-est de la France et plus. Hein. Alors localement, c'est vrai qu'on n'a pas vu de gros dépérissements, mais pour qui s'est observé, il y a quand même eu beaucoup de mortalité disséminée, même dans les forêts localement. Donc je pense que la forêt aura à l'avenir besoin de l'attention de tous, parce que c'est un bien commun.
Merci Eric Rousset.
Merci. Et maintenant, on va passer à une petite musique, donc Oxmo Puccino 365.
Sur le bitume en panne, l'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu, demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Commence à compter, tu te questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins ne plus me poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir, signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre, alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. Le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours puis 700, le temps commence à compter, tu te questionnes.
Vous êtes bien sûr toujours sur l'émission Palabre en forêt et vous venez d'écouter Oxmo Puccino 365. Donc nous avons entendu Éric Rousset qui nous parlait de la forêt publique et des documents d'aménagement. Et maintenant Virginie, nous allons passer
à la forêt privée et nous rejoignons Élise Bûcher, ingénieure à l'antenne du Gard du CRPF. Bonjour Élise Bûcher, vous êtes ingénieure forestière au Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie. Vous travaillez notamment sur le secteur du département du Gard. Le CRPF, c'est l'établissement qui est public, qui a été créé pour aider et conseiller les propriétaires forestiers privés pour préserver, entretenir et gérer leurs forêts. Alors attention, le CRPF n'est pas un gestionnaire forestier. Hein. Vous ne pouvez pas, par exemple, intervenir pour faire des travaux chez un propriétaire. C'est un petit peu pour vous situer. Vous avez aussi des missions réglementaires, comme donner d'ailleurs votre agrément, votre accord ou non au document de gestion durable des forêts, qui est notre thème d'émission. Alors, avant de parler de la gestion durable des forêts privées, pouvez-vous nous dire un peu plus ce qu'est le Centre Régional de la Propriété Forestière, depuis quand ça existe, est-ce que c'est payant pour les propriétaires, comment ça fonctionne sur les territoires?
Alors, le Centre Régional de la Propriété Forestière est effectivement un établissement public, donc il est national et puis après il est réparti régionalement. Donc sur l'ensemble de la région Occitanie, nous sommes présents. Sur le département du Gard et sur le département de la Lozère, qui sont les deux départements dont on parle aujourd'hui, nous fonctionnons avec un technicien à disposition des propriétaires et puis un ingénieur comme moi et comme mon collègue, où nous avons des missions sur le département, mais aussi des missions un petit peu plus transversales et régionales. Donc on est un établissement qui a pour vocation d'orienter, de développer la gestion forestière des propriétés privées, puisqu'un propriétaire forestier est souvent un petit peu démuni et ça lui permet d'avoir des conseils de gestion dénués de tout intérêt financier qui lui permet ensuite d'orienter sa gestion.
pour vous, la gestion durable des forêts, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la gestion durable des forêts, c'est un concept qui est un petit peu large. Chacun peut prendre un petit peu sa propre définition, mais c'est quelque chose qui permet souvent, nous, pour les forestiers, d'allier tout ce qui est économie de la forêt, d'allier aussi tout ce qui est environnemental, biodiversité, préservation des espaces, mais aussi tout ce qui est sociétal, avec des services rendus très importants auprès de la société, de la promenade, que tout le monde a cette image en tête, mais aussi tout ce qui est préservation de ressources en eau, maintien des sols. Donc c'est un petit peu la conjugaison de ces trois grands axes qui permet d'avoir une gestion durable et qu'il faut un petit peu avoir en tête pour que les propriétaires forestiers puissent gérer leur forêt.
Et en termes justement de gestion durable des forêts, est-ce qu'il existe en France des obligations pour les propriétaires forestiers ?
Alors oui, les propriétaires forestiers, pour gérer leur forêt, ont une réglementation forestière, qui est une réglementation nationale, qui s'applique à tout propriétaire. Et il y a différentes règles, on ne peut pas couper du bois exactement comme on veut. Et puis il y a aussi donc une obligation pour les propriétés qui font plus de 25 hectares d'avoir ce qu'on appelle un document de gestion durable, un plan simple de gestion. Voilà le terme technique pour ces propriétés.
Merci Élise Bûcher. Et alors, si je suis propriétaire forestier privé, j'ai moins de 25 hectares, qu'est-ce que je peux faire en termes de gestion durable des forêts ?
Alors effectivement, là je vous ai parlé plutôt de la réglementation qui s'appliquait, tant pour la réglementation des coupes et puis pour la réalisation de ce document qui a pour plus de 25 hectares obligatoires. Mais bien évidemment, les propriétaires forestiers qui ont une surface inférieure peuvent aussi céder de ce type de document. Alors ça peut ce qu'on appelle être un plan simple de gestion volontaire ou alors d'autres documents qui s'appellent le code de bonne pratique sylvicole ou le règlement type de gestion. C'est un peu des documents, ça va leur donner finalement un petit peu l'agenda de leur forêt, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une cartographie déjà de déboisement qu'ils ont, et puis ils vont avoir comme dans un agenda toutes les choses à faire, hein, à planifier sur les 5, 10, 20 années à venir.
Et du coup, il y a quelques questions qui viennent. Qu'est-ce que je peux aborder dans mon document de gestion durable ? Combien de temps ça me prend, moi, propriétaire forestier, pour le faire ? Est-ce qu'il y a des étapes à respecter pour le construire ? Est-ce qu'il y a des partenaires autres que le CRPF qui sont associés ? Est-ce que c'est rendu public ? Et surtout, combien ça coûte ?
Voilà, chaque document va avoir ses spécificités. C'est-à-dire que un plan simple de gestion, c'est un document donc, pour des forêts qui font plus de 25 hectares. Alors en Cévennes, grosso modo, on a des forêts qui font entre 25 et 50 hectares au maximum. On a une forêt qui est plutôt morcelée, mais on peut aussi avoir des documents qui se font sur 200, 300 hectares, voire plus. Tout dépend de ce qu'on possède ou de la manière dont on se regroupe en tant que propriétaire. Donc ça, ce sont des documents où il va y avoir un cadre réglementaire assez strict, où il faudra une cartographie de sa forêt, savoir quel type de peuplement on a chez soi, tout simplement, donc de les décrire. Est-ce que j'ai plutôt des pins ? Est-ce que j'ai plutôt des feuillus, comme des châtaigniers, des hêtres ? Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu état des lieux, quel type de desserte on a. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va faire tous les travaux et coupes qui vont se réaliser sur la durée du plan simple de gestion. Où on va en fait les planifier et les programmer à l'avance. C'est-à-dire qu'on va prévoir si on doit réaliser des travaux qu'on appelle de dépressage, c'est-à-dire enlever des jeunes arbres pour pouvoir laisser les autres grossir, et aussi les travaux où on va récolter au contraire, qui sont des coupes. Donc voilà, ça, c'est assez, assez cadré, mais pour autant, ça reste un document où le propriétaire peut compléter au fur et à mesure de ses envies. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas, même s'il y a un cadre réglementaire, il peut y ajouter tous les éléments qui lui semblent bons, de manière à avoir un document qui reste pas dans un tiroir, dans une table, mais un document qu'il fait vivre au quotidien pour entretenir et gérer sa forêt. Après, donc ça c'est un document qu'il peut faire seul. Pour répondre à la question financière, c'est un document qu'il peut faire seul. Donc, s'il a suffisamment de techniques forestières, pour ça, il y a des stages aussi qui sont organisés par les établissements forestiers comme nous pour qu'ils puissent se former et pouvoir réaliser ce type de document. Ils peuvent aussi faire appel à des gestionnaires forestiers. Et donc là, ça sera un contrat entre le gestionnaire forestier et lui. Et donc, le tarif dépendra un petit peu des prestations qui seront demandées au gestionnaire. Après, sur les autres documents qu'on a cités tout à l'heure, le code de bonne pratique sylvicole, c'est un document qui a déjà été pré-rédigé par notre établissement, le Centre régional de la propriété forestière. Et donc, le propriétaire va y trouver des fiches par grand type de peuplement forestier sur lequel il va pouvoir y reconnaître en fait sa forêt et donc cartographier et planifier ses interventions à l'aide de ces fiches. Donc, c'est un document beaucoup plus simple qui s'adresse aux petites forêts. Et donc là, généralement, le propriétaire le renseigne seul, mais il peut aussi se faire accompagner s'il le souhaite d'un gestionnaire, mais généralement il le fera seul. Puisque pour les gestionnaires, il fera appel à un autre type de document, le règlement type de gestion, qui est un petit peu à l'image du document précédent. Mais ça, c'est un document qui est propre à chaque gestionnaire. Donc s'il fait appel à une coopérative forestière ou à un expert forestier, ceux-ci ont ces documents-là et donc ils vont faire adhérer les propriétaires à leur formulaire de gestion à eux. Et donc le propriétaire aura ensuite réalisé par son gestionnaire une cartographie et puis un petit peu la règle, comme on disait, l'agenda de sa forêt avec les travaux et les coupes qui sont prévues.
Alors, dans les plans simples de gestion, donc oui, c'est une obligation. Il y a certains documents de gestion durable qui sont obligatoires pour obtenir certaines aides financières, pour obtenir des autorisations. Mais vous nous avez parlé des PSEG volontaires. Et donc voilà, au-delà de toutes ces obligations, quel est l'avantage pour les propriétaires de se doter d'un document de gestion durable? Vous nous avez dit, ça aide à planifier, c'est un agenda. Quels autres intérêts peuvent trouver les propriétaires à s'en doter?
Alors déjà, généralement, ce que nous disent les propriétaires, c'est tout simplement ils font le tour de leur forêt. C'est-à-dire que même s'ils n'ont que 1-2 hectares, ce qui est quand même la majorité des propriétaires en Cévennes, ils ont très peu de surface, ça leur permet de prendre conscience de l'ensemble des bois qu'ils possèdent et de parcourir en fait l'ensemble de leur propriété. De se rendre compte des types de peuplement qu'ils ont, donc quels arbres poussent sur leur forêt. Et puis, comme on le disait, ensuite, de s'approprier finalement son territoire en planifiant ensuite les travaux qu'il souhaite faire dedans. Ou alors, des fois, c'est tout simplement pas des travaux. Il va vouloir qu'un éleveur puisse pâturer pour faire ce qu'on appelle du sylvopastoralisme. Donc, ça va lui permettre de connaître sa propriété et de pouvoir rencontrer un éleveur et de lui montrer les bonnes parcelles, tout simplement, celles qu'il possède. Et ensuite, de mettre en œuvre avec lui une gestion particulière. Donc tout ça, finalement, ces documents permettent de connaître, de s'approprier son territoire foncier et puis de mettre en avant une gestion quelle qu'elle soit, qu'elle soit plutôt orientée sylvopastoralisme. Après, on peut avoir aussi de la sylviculture irrégulière. Ça permet de décliner en fait tout un tas de modes de gestion sur sa propriété.
Merci. Il existe le label PEFC, qui est un label donc de certification des forêts pour une gestion forestière durable. Est-ce que les propriétaires forestiers sont sensibilisés à se doter de ce label PEFC? Si oui ou sinon, pourquoi?
Alors effectivement, une partie des propriétaires forestiers y sont sensibilisés puisque c'est un label qui a été créé au niveau national et à l'intérieur duquel il y a donc les propriétaires forestiers qui ont un rôle à jouer puisqu'ils sont directement dans le label au même titre que les consommateurs. C'est un label où les propriétaires ont leur part à jouer directement dans la gestion de celui-ci. Toutefois, sur le territoire, après, l'adhésion à une certification PEFC n'est pas forcément bien comprise par l'ensemble des propriétaires, car ils n'y voient pas forcément un avantage particulier pour eux. C'est-à-dire que c'est un label qui est surtout à destination des consommateurs pour prouver sa gestion durable. Et parfois, les propriétaires ont du mal à comprendre pourquoi ils sont obligés de prouver ce label, à travers ce label, pardon. Et du coup, il faut être honnête, sur le département du Gard et de la Lozère, très peu de propriétaires sont actuellement labellisés PEFC. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la gestion durable, mais ils sont pas encore rentrés dans cette démarche qui a pour eux une vision assez plutôt visée vers la commercialisation, visée auprès des consommateurs. Voilà.
Et du coup, pour en revenir un peu au territoire justement de chez nous, combien y a-t-il de forêts sous document de gestion durable sur la charte forestière Sud-Lozère, animée par Nathalie, et également sur la charte forestière du Pays Cévennes ?
Alors, en fait, le nombre de documents de gestion durable, alors je vais vous donner les chiffres. Pour autant, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je vous l'expliquais, ces documents de gestion durable n'ont pas un caractère forcément obligatoire. C'est-à-dire que certains propriétaires ne l'ont pas encore fait. Et particulièrement sur les plans simples de gestion, où on a un décompte beaucoup plus précis, beaucoup de propriétés ne sont pas soumises, comme je vous le disais, du fait du morcellement en Cévennes du foncier. Et donc, ils ne sont pas soumis à plan simple de gestion. Donc, sur la charte forestière Sud-Lozère, actuellement, il y a 288 documents de gestion durable, ce qui représente à peu près un petit peu plus de 16 000 hectares.